Radio Okapi.
Le journal Mireille Bukasa Mukendi.
Okapi.
À la une, ce rapport de l'ONG Journalistes en danger en rapport avec les droits de l'homme. GED estime que la situation de la liberté de la presse en RDC va de mal en pis. L'actualité, c'est aussi les obsèques ce samedi du séminariste jésuite assassiné le week-end dernier à Kinshasa. Aucune trace du criminel n'est découverte jusque-là. Les formateurs du défunt, eux, réclament une enquête sérieuse.
3, 2, 1, 0, fire!
98 engins explosifs sont détruits. C'était hier à Mbacana par la compagnie sud-africaine Mechem. Dans quelques instants, nous vivrons cette opération menée en collaboration avec l'unité de la MONUSCO chargée de la lutte anti-mine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 72e anniversaire de la Déclaration universelle de droits de l'homme, c'était hier le 10 décembre, ici à Kinshasa. C'était une occasion pour l'ONG Journalistes en danger de publier son rapport. GED estime que la situation de la liberté de la presse en RDC s'est détériorée de 16% par rapport aux années précédentes. Et cette situation risque de s'empirer en 2011 avec la tenue des élections prochaines, selon GED. Nadine Foula nous en dit plus.
Si en 2009, 75 cas étaient enregistrés comme atteinte à la liberté de la presse, en 2010, on dénombre 87 cas. Ces 87 cas sont regroupés en 9 typologies de violations. Donan Baya, président de GED, nous donne ici la synthèse de ces tableaux.
Il y a eu un caméraman qui a été tué. Alors, les journalistes qui ont été incarcérés, il y en a eu 17. Et dans la catégorie des journalistes interpellés, on en a eu 27. Les journalistes qui ont été menacés ou harcelés, nous en avons dénombré 8 des journalistes ou médias qui ont été victimes des pressions administratives, économiques ou judiciaires. On en a dénombré 13. Et les entraves à la libre circulation nationale ou internationale, on en a dénombré 14.
Par la même occasion, le président de l'ONG GED a formulé quelques recommandations adressées au président de la République et au Parlement.
Que le chef de l'État puisse concrétiser par des signaux forts sa volonté exprimée de protection et de sécurisation des journalistes. Il y a déjà plusieurs mois que le Parlement a adopté la loi organique portant sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous recommandons au chef de l'État de pouvoir promulguer cette loi.
Une note positive à souligner, c'est le fait qu'à ces jours, il n'y a eu aucun journaliste qui ait porté disparu ni détenu en prison, a souligné Donan Baya. Pendant, le président de GED craint que le nombre de cas d'atteinte à la liberté de la presse augmente en 2011 avec la tenue des élections.
Journée de droits de l'homme en province orientale, la ville d'Isiro a célébré cette journée à sa manière. Pendant 3 jours, les activistes des droits de l'homme et ONG de la société civile, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, ont mené des activités en rapport avec la violation faite à la femme dans cette ville, située à plus ou moins 550 km au nord-est de Kisangani. André Kitenge, depuis Isiro.
C'est dans l'amphithéâtre de l'université de Louélé et les activistes des droits de l'homme et les autorités locales d'Isiro ont commémoré cette journée internationale des droits de l'homme. La société civile d'Isiro a fait la synthèse d'activités menées auprès des autorités étatiques, de la justice coutumière, militaire et les confessions religieuses. Constat fait, le district du Haut-Louélé n'est pas épargné de violences sexuelles et de discriminations, ce qui a conduit à la mise en place d'une brigade de concertation avec les différentes autorités tant civiles que militaires afin de combattre la discrimination et de lutter contre les violences faites à la femme. À la même occasion, une conférence débat portant sur la contribution des droits de l'homme à la lutte contre la discrimination a été animée par le coordonnateur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme de la MONUSCO Kisangani, Tiangai Komulan. Isiro, André Kitenge, Radio Okapi.
Droits de l'homme toujours, parlons cette fois du procès Floribert Chebeya. La cour militaire doit définitivement boucler les préliminaires jeudi prochain. Elle doit dire si elle continue d'instruire ce procès ou l'abandonne au profit d'une instance supérieure. Au cours de la 3e audience qui a eu lieu ce vendredi à la prison centrale de Kinshasa, les avocats de la partie Chebeya ont encore demandé que le procès soit désormais envoyé à la haute cour militaire. Les avocats des accusés ne jurent eux de leur côté que par une seule chose, la liberté provisoire pour leur client, Donna Madimba.
L'audience de ce vendredi a beaucoup ressemblé à un véritable match de ping-pong. Chaque partie n'était exclusivement focalisée que dans la défense de ses seuls intérêts. La défense réclame depuis les premiers jours la liberté provisoire pour ses clients. L'accusation n'est jurant, elle, que par l'envie de voir le procès vite renvoyé à une instance supérieure comme la haute cour militaire. Le ministère public, défenseur de l'État congolais à ce procès, a aujourd'hui rejeté toutes ses demandes, les qualifiant de non fondées sur le plan juridique. L'accusation et la demande avaient alors réagi à cette décision, la qualifiant à leur tour de tentative de faire obstacle à la justice. La Cour est alors intervenue pour proposer une remise à jeudi prochain. À cette date, elle tranchera pour dire quel verdict elle donne à ce premier débat. Après seulement, le procès pourra alors continuer ou recommencer à nouveau.
À Kinshasa, je voulais annoncer le jeune séminariste jésuite assassiné à Mongafula sera inhumé aujourd'hui au cimetière du Scholastica Pierre Canisius à Kimwenza. Mais hier, une messe de requiem a été dite en sa mémoire dans la chapelle Saint-Pierre Canisius, toujours à Kimwenza. Nicolas Eklou, comme l'âme, de nationalité togolaise, a été lâchement abattu par un homme en uniforme de police alors qu'il revenait d'une fête avec ses confrères dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Jusqu'à présent, aucune trace du criminel n'est découverte, raison pour laquelle dans la messe d'hier, ses formateurs ont demandé aux autorités congolaises de mener une enquête sérieuse en vue de punir sévèrement l'assassin. Écoutez tour à tour les pères Mpai Kemboi et Modeste Makumbu Kasongo dans leurs propos recueillis par Innocent Olenga.
Notre imagination a horreur de se représenter un homme en uniforme de police vidant le chargeur de son fusil sur un jeune innocent, sans protection et sans défense. Ce n'est pas une explication rationnelle à cette mort.
Ce crime s'est déroulé non loin de postes de police. Nous formulons le vœu de voir les autorités civiles et militaires s'impliquer entièrement pour ouvrir une enquête profonde, susceptible de rétablir la vérité de tous ces faits, afin de démasquer les malfaiteurs qui troublent la paix des citoyens. Nous en appelons à leur sens de responsabilité pour sécuriser les personnes et les biens dans cette partie de la ville.
98 engins explosifs ont été détruits hier à Mbakana, localité située à près de 150 km de Kinshasa. Une destruction exécutée par Michem, une compagnie sud-africaine spécialisée dans le déminage et la destruction des engins explosifs. Cette compagnie travaille sous la supervision de la coordination de la lutte anti-mine UNMAC, une unité de la MONUSCO. Jacques-Yves Moulima nous fait revivre l'événement dans ce reportage.
Il est 11h05, nous sommes dans la savane de Mbakana avec des petites herbes. Le cortège de l'unité qui doit assurer la destruction amorce la route serpentée pour atteindre le lieu de la destruction. Aussitôt arrivé, l'équipe prépare le terrain. C'est l'endroit où seront enfouis les engins pour explosion. Juste après, c'est le chef de l'équipe qui dispatche ses hommes. L'histoire de s'assurer qu'aucune personne n'est dans la brousse et que la destruction ne pourra causer des dommages à personne. Un gros véhicule de transport a même été mobilisé à plus d'un kilomètre de là pour la sécurité des passagers. Tout à fait prêt, les fils électriques pour la détonation de près de 1000 mètres installés, il ne restait plus que la destruction. Il est 11h, passé d'une trentaine de minutes.
3, 2, 1... Zero fire!
Mais quels sont les engins qui sont détruits ici? Réponse avec l'assistant chargé des démolitions à l'UNMAC, Paco John Dradrien.
Les roquettes de 107 000 mètres, les roquettes de 57 000 mètres, il y a eu un obus de mortier de 80 000 mètres, et il y a eu des fusées allumeurs, il y a eu aussi des balles de 20 000 mètres et des projectiles de 20 000 mètres et de 37 000 mètres.
Signalons que cette destruction est l'aboutissement des travaux d'assainissement du nouvel espace à l'aéroport international d'Ndjili où seront placées les installations aéroportuaires de la MONUSCO.
Reportage signé Jacques-Yves Molima. L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel compte appuyer le secteur congolais de l'industrie. C'est ce que l'on peut retenir de la mission de 5 jours à Kinshasa d'une délégation de l'ONU dit. Cet appui vise à en croire les membres de la délégation, le renforcement de capacités du ministère congolais de l'industrie, mais aussi un appui de la filière agro-industrielle du bois, du manioc et de l'huile de palme. Selon un membre de la délégation, ces interventions de l'ONUDI ont pour but d'assurer la sécurité alimentaire, de réduire la pauvreté et ainsi créer des revenus et de la valeur ajoutée. Philippe Schultz est au micro d'Agathe Ponaelema.
un appui à la sécurité alimentaire du pays. Ça va permettre d'accroître la production de manioc, la production d'huile de palme à destination du marché urbain de Kinshasa et d'améliorer aussi les aspects qualitatifs de la production parce que nous insisterons aussi bien sûr sur le contrôle de qualité, sur les aspects nutritionnels de l'huile de palme et de la et du manioc. En ce qui concerne la transformation du bois, l'ameublement par exemple dans la ville de Kinshasa est pour la plupart importé de l'extérieur. Donc il y a une opportunité réelle de créer de la valeur, encore une fois, en transformant les produits de l'industrie du bois, en allant au-delà de la première transformation qui est utilisée pour la construction, d'aller vers une étape de seconde transformation où les planches sont converties en meubles divers.
Retenons que ce programme s'étalera sur les 5 prochaines années à compter du mois de janvier prochain. Ceci pour un coût d'environ 12 millions de dollars américains. Et c'est la dernière nouvelle de ce journal qui a été mise en onde par Mimi Kindou. Merci de nous avoir suivis. Okapi, Okapi, Radio Okapi.